Quelque part dans un fameux roman de Gabriel Garcia Marquez, des papillons suivent un ouvrier du nom de Mauricio Babilonia comme son ombre. C'est même parfois à la présence de ces petits lépidoptères jaunes que l'on sait que Mauricio est là. Il est l'homme aux papillons. Quelque part, entre les rails des trains, dans les friches et autres zones oubliées des gestionnaires urbains, vous pouvez voir voler des papillons. Et c'est peut-être le signe que vous êtes tout près d'un Buddleia de David, Buddleia Davidii, l'arbre à papillons, un arbre exotique qui s'est fait récemment une place dans nos paysages. Comme il est difficile de dissocier Mauricio de son ombre aux ailes jaunes, il est difficile de penser au Buddleia sans ces petits papillons qui, à la saison des fleurs, s'enivrent de leur nectar. Il devrait y en avoir un devant vous, en bas des marches, sur ce talus en bordure d'eau. Mais peut-être a-t-il été coupé ou même arraché. Je vous le décris. C'est un arbuste aux tiges quasi quadrangulaires, autour desquelles des feuilles vertes, parfois grisâtres, poussent par deux, face à face. Les botanistes parlent de feuilles opposées. De 4 à 20 cm de long, légèrement ovales, elles ont des formes de lance. On dit d'elles qu'elles sont lancéolées et sont bordées de petites dents. On voit rarement l'arbre nu, car son feuillage est semi-caduc, une partie se maintenant en hiver. Entre mai et début octobre, des cônes formés d'une multitude de fleurs couleur lilas mesurant entre 10 et 25 cm apparaissent aux extrémités des tiges qui ploient légèrement sous leur poids. Regardez, ou imaginez. Y posant délicatement ses pattes qui d'apparence ne bousculent rien, un pan du jour, aussi appelé savamment Aglaïs Io, qui tire son nom de la légère ressemblance de ses ailes avec les plumes de l'oiseau, plonge sa trompe dans le nectar sucré d'une des fleurs avant d'enrouler ce tube creux sous sa tête, repu, et de s'envoler vers un ailleurs, se gorger ainsi de fructose, glucose, protéines, vitamines et autres substances énergétiques dont ils ont besoin pour voler. Un peu plus loin, une abeille et une mouche attaquent une autre partie de l'inflorescence avec la même délectation. D'autres papillons sont de la fête. Robert le Diable, le Moreau Sphinx, la pyrite du chou ou le macaon, pour ne citer que. Et la plante a tout prévu. En plus de dégager une odeur à rendre fou le premier papillon qui passe, elle a peint le cœur de ses fleurs en orange comme on s'affuble d'un gilet de sécurité pour se rendre la plus repérable possible. Car les papillons ont une très bonne perception des couleurs. Ils voient même les ultraviolets. Mais n'allez pas croire, cet accueil est tout à fait intéressé. La plante ne fait ainsi qu'assurer sa reproduction en manipulant les insectes. Bah oui, faire de si belles fleurs lui coûte une énergie folle. Il faut que ses efforts soient récompensés. Attirés par son nectar, les papillons ne peuvent faire autrement que se mettre du pollen partout, pollen qu'ils iront ensuite disperser au gré de leur butinage. Or, si les insectes se chargent gracieusement de la pollinisation du Buddleia, il semble que leur arbre de prédilection ne soit pas aussi serviable. On peut presque parler d'arnaque. La plante les attire avec ses couleurs vives et la forte odeur de ses fleurs. Mais son nectar a peu de qualité nutritive, n'étant composé que d'environ 30% de sucre, quand certaines plantes peuvent en offrir un concentré jusqu'à 70%. L'arbre à papillons est un hôte finalement peu recommandable, car s'il offre un couvert du type junk food, il n'offre pas le gîte. Je m'explique. Avant d'exhiber leurs ailes colorées, les papillons ont été des œufs. Qu'il a bien fallu pondre quelque part, puis des chenilles qui ne manquent pas d'appétit. Or, ces chenilles mangent les feuilles, tiges et fleurs des plantes indigènes. Du coin, se connaît pas le Buddleia. Une fois leur mue achevée, les papillons qu'elles sont devenues vont puiser dans le nectar, puis pondre dans les feuilles qu'une fois chenilles, elles mangeront, et ainsi de suite. Ce qui se passe avec le Buddleia de David est tout à fait différent. La plupart des chenilles sorties de l'œuf mourraient si elles venaient à manger ces feuilles, car celles-ci contiennent des molécules toxiques. Les papillons addicts au nectar de Buddleia ont donc besoin de pouvoir aller alentour pondre dans des plantes chenille-friendly. Or, chaque espèce de papillon a entre une et cinq espèces hôtes, pas plus. Et quand celles-ci sont rares, ben c'est pas simple. Cela dit, certaines espèces n'ont que faire de la toxicité du Buddleia. C'est le cas de la brèche, aussi appelée cuculi du bouillon blanc, qui fait partie de ce qu'on appelle les hétérocéra, les papillons de nuit. Ces belles chenilles blanches, aux motifs réguliers noirs et jaunes, peuvent vivre dans le Buddleia jusqu'à leur nymphose, c'est-à-dire avant de muer en chrysalide, stade durant lequel leur corps se transforme. Viendra ensuite leur mue imaginale, qui en fera des papillons, leur stade adulte, leur imago. En ville, on manque cruellement de papillons. La faute à la densité des zones bitumées ou bétonnées, mais aussi à la manière souvent maladroite de gérer la nature qui laisse peu de place à la biodiversité. Que l'on soit à Toulouse, Marseille ou Paris, on trouve pour partie les mêmes espèces végétales horticoles, sélectionnées principalement pour leur beauté. Peu d'essences locales y sont accueillies, et les sauvages, les spontanés, en sont généralement chassés. Difficile alors pour le tabac d'Espagne, ces grands papillons aux ailes fauves, ouvragés de lignes et de taches noires ou brunes, qui naissent généralement dans des violettes, ou pour les chenilles du pan du jour, qui naissent dans des orties, de voir le jour en ville. Cela dit, ces papillons, comme beaucoup d'autres, sont capables de se disperser à plusieurs kilomètres de leur lieu de croissance. Cela dépend bien sûr des individus et des conditions de météo. Ce qui explique sans doute qu'on les trouve au cœur des espaces urbains, alors que d'autres papillons vont rester dans des zones d'herbes fleuries, plus exigeants quant à leurs ressources, mais aussi moins mobiles. À Toulouse, on a repéré plus de 300 espèces de papillons, ce qui est assez peu. À Blagnac, on en a répertorié plus de 700. Et certaines communes d'Occitanie en comptabilisent plus de 1000. Il faut savoir qu'en France métropolitaine, il y en aurait 6000. On a peu de données sur Toulouse, faute de suivi régulier. Mais on sait que certaines espèces, comme le damier de la Sucise ou encore le miroir, ont vraisemblablement disparu, car ils ont été aperçus pour la dernière fois dans les années 50 ou 70. Quant au buddleia, c'est un arbuste commun dans les villes, et il ne cesse de se répandre dans le monde entier. Il faut dire que d'une part, il n'est pas très regardant sur son habitat. C'est une plante pionnière qui supporte particulièrement bien la pollution à l'azote et se plaît dans les sols pauvres, les milieux perturbés que sont les friches ou les décombres en tout genre. Ensuite, il aime la chaleur et le soleil, on le dit héliophile, ce qui en ville est un avantage certain. En plus, il a une capacité de dispersion colossale. Chaque arbuste peut produire 3 millions de graines, semblables à des petits insectes durcis, qui ont une dormance, c'est-à-dire une capacité à se mettre en sommeil en attendant des conditions favorables, de plusieurs années. Un atout de taille en milieu urbain où il n'est pas toujours facile de trouver d'endroit adéquat pour germer. Ces graines sont emmenées par le vent et l'eau, mais aussi par les trains ou les voitures, où elles se glissent ni vues ni connues. Et puis, des fois que les graines ne fonctionneraient pas, l'arbre à papillons peut toujours se multiplier grâce à ses stolons, comme les fraises. Ses propres branches s'enracinent alors et produisent de nouveaux petits arbustes. Et ce n'est pas fini. Si le buddleia gagne si vite du terrain, c'est aussi qu'il pousse très rapidement. Et même s'il ne vit que quelques décennies, le maximum observé est 37 ans, sa multiplication inquiète la communauté scientifique et révulse certains aménageurs urbains. Les humains sont ainsi faits. Ils déplacent les plantes à travers le monde pour se faire de belles haies ou de beaux massifs, puis ils s'étonnent de voir certaines d'entre elles s'échapper des jardins pour aller vivre leur vie où le vent les sème. Et c'est exactement l'histoire du buddleia du père David. Je vous raconte. Pour retrouver ses racines, il faut aller jusqu'en Chine, quelque part dans les montagnes, au creux d'un fourré. Sous la plume du médecin Li Shizhen, qui exerce dans la deuxième moitié du XVIe siècle, notre arbuste porte alors le nom de Zuiyukao, l'herbe enivrant les poissons, qu'elle tiendrait des pêcheurs qui avaient constaté que les fleurs et les feuilles tuaient leurs compagnons aquatiques. Le docteur en décrit les caractéristiques selon la médecine chinoise, ainsi que les périodes de récolte. Aujourd'hui encore, elle fait partie de cette pharmacopée traditionnelle. Mais ce sont les Occidentaux qui en firent, dès 1869, une plante d'ornement. Et c'est le père David, missionnaire dans l'ouest de la Chine, et qui collectait de nombreux spécimens végétaux et animaux pour le Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui l'introduisit en Europe. En France, c'est à l'entreprise familiale Villemorin que l'on doit la première mise en culture fructueuse des graines récoltées. Louis de Villemorin tenait cet échantillon de graines d'un autre missionnaire, le père Soulier, originaire de Saint-Juéry dans l'Aveyron, alors en mission au Tibet. En 1896, il les envoya au jardin botanique de Kew de Londres, l'un des plus importants au monde. Le buddleia du père David sera ensuite largement cultivé dès la première moitié du XXe siècle, devenant un classique des plantes ornementales. Oui, mais voilà. Depuis son évasion des jardins, le buddleia est considéré comme de la mauvaise herbe. Pire, En France, on l'a affublé du terrible qualificatif d'espèce exotique envahissante, EEE. Sa propagation est si efficace qu'aujourd'hui on le trouve un peu partout en Europe, jusqu'en Norvège, qu'il est installé en Nouvelle-Zélande, mais aussi dans certaines régions d'Australie. On l'accuse d'avoir un fort potentiel pour ce qui est d'impacter les équilibres naturels et la biodiversité, de prendre la place des plantes indigènes notamment. Mais on oublie souvent que le but de l'EIA correspond, comme les autres plantes pionnières, à un stade écologique de reconquête des milieux ouverts par l'humain, et que si on laissait faire, le milieu le ferait bientôt disparaître au profit d'autres espèces. Et puis si on lui mène la vie dure, si on le traite avec des désherbants comme ça a été fait dans l'Oregon, si on l'arrache, on en coupe les inflorescences ou on le dessouche, on continue pour autant d'en garnir les jardins. Et bien que les cultivars créés soient stériles, il existe toujours un risque d'envahissement par multiplication végétative. Vous vous rappelez ? Les branches qui prennent racine. En 2008, en Nouvelle-Zélande, on a tenté de lui régler son compte en introduisant une armée de petits coléoptères, des Cleopus japonicus. Les scientifiques qui ont suivi le processus suggèrent que Cleopus pourrait faire le job au cours des premières années d'implantation du Buddleia, à condition qu'on l'aide en pulvérisant de l'herbicide autour de la plante pour neutraliser les graines tombées alentour. On peut douter de la méthode et se demander si en plus Cleopus se contentera de notre arbuste. Quoi qu'on en dise, le Buddleia fait désormais partie de notre flore et sa gestion est un véritable casse-tête qui illustre très bien l'embarras où on se trouve, en déséquilibre au milieu d'espèces dont l'humanité pensait, dans sa volonté de toute puissance, organiser et maîtriser les trajectoires et qui, en fin de compte, nous échappe.